Nous allons prendre un instant pour partager, méditer la parole de Dieu. Alors, grand-papa a dit déjà beaucoup de choses, peut-être je pourrais ne rien dire finalement. On pourrait rentrer à la maison. Mais le Seigneur m'avait donné quand même à cœur de vous partager cet extrait de l'évangile de Marc, un tout petit peu avant le chapitre 16, au chapitre 4. Chers amis et chers membres de la famille de Justine et Nicolas, peut-être vous vous demandez, qu'est-ce qui fait qu'un beau dimanche de mai, beau ? Un dimanche matin, il passe quelques instants plongé dans une eau assez froide. Peut-être que vous êtes jamais rentré dans une église, peut-être que vous découvrez cette pratique du baptême, peut-être que vous découvrez aussi tous ces chants, ces prières qui ont été montées vers Dieu et vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? A-t-on à faire là une litanie insipide, indolore, incolore ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? Qui au XXIe siècle encore, à l'heure de la technologie, à l'heure des grandes choses, des grandes capacités humaines, il y a quelque chose de plus qui pousse deux jeunes personnes dans la fleur de l'âge à vouloir se faire baptiser. Et il me semble qu'il y a quelque chose de plus. C'est la rencontre qu'ils ont fait et expérimenté tous les deux. Une rencontre qui les a changés de l'intérieur. Une rencontre que Jésus raconte par une petite histoire que l'on trouve au chapitre 4. Une histoire assez connue, la parabole du semeur, que je vais vous lire maintenant. Chapitre 4 de l'évangile de Marc, nous commencerons par les versets 1. Jésus donc se remet à enseigner au bord de la mer. Il se rassemble auprès de lui une foule si nombreuse qu'il monte dans un bateau sur la mer et s'y assied. Toute la foule était à terre près de la mer. Il les instruisait longuement en parabole et leur disait dans son enseignement, « Écoutez, écoutez. » Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long d'un chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde, mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et se dessécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent la graine. Elle ne donna pas de fruits. D'autres grains tombèrent sur la bonne terre. Montant et croissant, ils finirent par donner du fruit. L'un rapporte 30, un autre 60, un autre 100. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et un petit peu plus loin, au verset 14, Jésus ne s'adresse plus à la foule, mais à ses quelques amis qui sont là, autour de lui, pour lui donner l'explication à ce qu'il a raconté. Il leur dit, verset 14, « Le semeur sème la parole. » Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée. Mais à peine l'ont-ils entendu que Satan vient enlever la parole qui a été semée en eux. Quant à ceux qui ont été ensemencés dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec une grande joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour eux une cause de chute. D'autres ont été ensemencés parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais les inquiétudes du monde, l'attrait trompeur des richesses et l'intrusion des autres désirs étouffent la parole et elle devient stérile. D'autres enfin ont été ensemencés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, un autre 100. Amen. Je vous invite à la prière. Notre grand Dieu, notre Père, ta parole est la vérité. quand ce jour, par l'assistance de ton esprit, elle nous parle, elle nous édifie, elle nous corrige si nécessaire. Seigneur, sème en nos cœurs ta parole de vie. Amen. Jésus raconte une histoire qui, par des côtés, est assez loin de notre réalité. Il raconte l'histoire d'un semeur qui sème à la main, à l'heure où, dans nos régions, c'est plutôt avec des tracteurs bien téléguidés, avec des programmes adaptés pour déposer la graine juste au bon endroit, là où elle pourra pousser, que ça se passe. Là, le semeur sème à la main. Et puis, j'ai beau ne pas avoir la main verte, reste à voir, vous n'avez qu'à voir les plantes dans mon bureau, vous verrez ça. Le semeur ne semble pas très au fait de la réalité des sols sur lesquels il sème ses graines. Les grains semblent un tout petit peu poussés et aussitôt s'en vont. En même temps, il y a donc cette réalité qui semble si loin de nous et cette parole qui nous rencontre aussi encore aujourd'hui. Lorsque Jésus parle de mal, d'épreuves, de souffrances, d'inquiétudes, de richesses, ce sont encore des réalités que nous vivons encore en ce jour. Et nous l'avons entendu dans le témoignage de Nicolas et de Justine. Bien des inquiétudes, bien des épreuves. Alors, à la fois cette réalité si loin, et en même temps cette réalité si proche, nous pousse à voir dans cette parabole autre chose qu'un petit conte enfantin qui raconterait une belle histoire, ou qu'une histoire réelle, il était une fois un semeur qui a fait ceci ou cela. Mais à travers cette histoire imagée, Jésus veut nous parler, et nous parle ce matin encore. Même si nous connaissons cette parabole par cœur, laissons-nous interpeller par le Christ. Dans son explication, Jésus parle de parole, justement. D'une parole. Mais de quelle parole s'agit-il ? Parole humaine ? Parole d'hommes politiques qui n'engagent que ceux qui l'écoutent et y croient ? Parole de commerciaux qui vont vanter les bienfaits de leurs produits ? Parole d'un être cher ? Parole d'un ami ? Quelle parole est semée ? De quelle parole s'agit-il ici ? Et si cette parole était l'histoire de l'Évangile, semée dans le cœur des individus ? Parole d'abord semée par Jésus-Christ et par ses témoins qui se succèdent de génération en génération. Et Justine et Nicolas en ont parlé également. Et si l'histoire de l'Évangile, c'était celle d'un roi qui, un jour, sachant qu'il part en voyage, confie la gérance de tout son royaume à son plus fidèle valet, celui en qui il a une entière confiance, celui en qui il n'y a nul doute qu'il est fidèle et qu'il ira jusqu'au bout. Alors ce roi confie à ce valet fidèle la gestion du royaume. Il lui donne tout pouvoir, toute capacité, mais il lui dit une chose, une seule chose, cher valet fidèle, n'ouvre jamais le coffre qui se trouve dans la plus haute tour de mon château. Si tu l'ouvres, alors des dégâts incroyables vont se répandre sur le royaume. La perfidie, le mal vont alors régner. Le roi part en vacances. Mais malheureusement, vous l'imaginez bien, par une belle soirée étoilée, après un bon repas, le valet fidèle se laisse gagner par la curiosité. Monte toutes les marches de la plus haute tour du château. Et voilà le coffre, lumineux, plein de pierres précieuses, qui lui dit « Ouvre-moi, ouvre-moi !» Et ce qui devait arriver arriva. Le valet fidèle et aussi curieux, il entr'ouvrit juste un tout petit peu le coffre et s'introduit simplement par cette petite ouverture du coffre. Tout le mal et la perfidie dans tout le royaume. Et alors, les hommes et les femmes sont devenus comme fous, tuant, massacrant, volant, mentant, se disputant pour un oui ou pour un non. Les hommes et les femmes sont devenus complètement fous. Le roi rentre alors de vacances. heureux, reposé, bronzé. Et quand il rentre, il voit tous ces dégâts incroyables dans son royaume. Il voit ces hommes et ces femmes devenus complètement fous. Alors, tout le monde, tout le peuple regarde ce roi arriver et attend que ce roi réagisse, car il est le seul qui puisse rétablir toute chose. S'il est roi, il doit intervenir. S'il est juste, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais ce roi est aussi amour, et il le sait. Alors, il va chercher qui est le responsable de ce marasme, qui a ouvert ce coffre. Et quand il découvre que c'est son fidèle valet, son cœur se brise. Que faire maintenant? Les yeux du peuple sont tournés vers lui. Il faut que quelqu'un paye. Alors le valet, un peu confus, accuse sa femme. C'est elle. Elle voulait voir ce coffre. Le roi le sait. Il ne peut laisser impuni cet acte de désobéissance. Quelqu'un doit payer pour le mal qui a été commis. S'il ne le fait pas, s'il fait juste que pardonner, alors ce sera un roi mou, pas juste. Mais il est aussi amour. Comment faire pour concilier les deux? Alors, que faire? La peine minimum serait que le valet soit chassé du royaume et que les individus qui aient commis le mal également. Mais alors la difficulté, c'est que tout le monde devrait quitter le royaume. Quelqu'un doit payer. Et il faut que ce soit quelqu'un du peuple. Mais si c'est un homme au hasard, le roi ne sera pas à ce moment-là juste. Il ne serait pas juste que quelqu'un paye pour les autres. Et puis en plus, il faudrait que quelqu'un n'ait pas lui-même commis de mal pour pouvoir porter la sanction des autres. Il faut quelqu'un qui soit capable de porter le poids de la condamnation. Il faudrait aussi l'idéal que ce soit quelqu'un qui ait cette responsabilité de valet. Il faudrait un valet pour payer à la place d'un valet. Et ce roi doit se résoudre. Il faut que quelqu'un paye. Alors le roi commet l'impensable. Il condamne son fidèle valet. Et vous vous doutez de la suite? Va-t-il le chasser du royaume et chasser avec lui tous les mécréants? Non. À peine a-t-il prononcé la condamnation du valet que le roi enlève sa couronne, la pose sur son fauteuil, enlève ses habits royaux et prend sur lui la condamnation du valet, qui permet de restaurer toute chose. Et un souffle nouveau environne tout le royaume. La paix, la joie, l'harmonie sont de nouveau possibles. Et le roi, fidèle, juste et amour, a pu permettre à la fois que la justice soit rendue et que son amour soit exprimé pour ce peuple. Et si cette parole semée était cette histoire d'un roi, d'un Dieu tout-puissant qui prit forme humaine un jour pour porter sur lui le poids de notre condamnation, le poids de la condamnation qui permet le pardon des péchés, qui permet d'être restauré, d'être renouvelé, réconcilié avec Dieu. Et si cette histoire du roi, c'était ce Dieu-là qui vient résonner, qui vient toquer à la porte de notre cœur ce matin et l'a semé, cette parole. C'est un message incroyable. Message incroyable que toute la Trinité, on l'a chanté, la Trinité divine, se mette en œuvre pour sauver des êtres humains qui ne sont pas aimables. Toute la Trinité. Le Père envoie le Fils. Le Fils porte sur lui le poids de la condamnation. Et une fois qu'il est remonté aux cieux, envoie le Saint-Esprit pour nous permettre d'avoir la présence de Dieu dans nos cœurs et nous transformer, de réparer les blessures, restaurer ce qui a été abîmé. Mais alors cette parabole du semeur nous pose la question. Qu'est-ce qu'on va en faire? Quel sol sommes-nous à l'accueil de cette parole? Justine et Nicolas ont été cette bonne terre. Alors il reste du travail, chers amis, c'est une bonne nouvelle. Hein, ils ont été cette bonne terre dont Jésus parle. Ils ont accueilli, reçu cette parole. Mais sa question se pose aussi pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire de cette parole ce matin? Parce que Jésus parle quand même d'échecs dans sa parole. 3 échecs sur 4. Qui va-t-on blâmer ? Le semeur qui ne sait pas trop semer ? Le texte ne le condamne pas. La graine qui ne serait pas efficace ? Le texte ne le dit pas. Il reste le sol. Il reste le sol à blâmer. Mais alors, blâmer un sol, quelle belle affaire, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, vous l'avez compris, le cœur ici du message, c'est que cette terre, ce sol, ce sont nos vies, nos cœurs qui reçoivent cette petite graine qui vient tout en douceur, tout en légèreté dans nos vies. Cette parole vient comme une parole dite, donnée, légère, comme le grain qui se pose sur le cœur de nos vies. Mais il y a des risques d'échec. Parce que face à cette petite graine posée sur le cœur, il y a le mal qui environne et qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. L'injustice, les guerres, les crimes, et j'en passe. Beaucoup, beaucoup de choses qui font que cette petite graine légère, quand vient la question de pourquoi tout ça ? Moi, je ne peux pas croire en Dieu, au vu de tout ce mal-là. Alors la petite graine s'envole. Elle est prise par ce rapace, par le Satan, l'incarnation même de ce mal. Il y a aussi l'échec de la parole qui se dessèche, de cette petite graine. Oh, qui a produit une grande émotion, une grande joie, on l'a chanté tout à l'heure, je suis dans la joie, ouh ! Ben oui, mais c'est comme l'amour qui peut être des fois superficiel, qui ne se résumerait qu'à l'apparence physique. Quand le nombre des années fait son œuvre, si on aime simplement parce que la personne est belle, on risque d'être déçu, ou alors on va avoir des subterfuges artificiels, n'est-ce pas ? Mais si l'amour est à ce moment-là fondé sur la connaissance mutuelle, le pardon, l'amour inconditionnel, à ce moment-là, ça change tout. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. Oui, ça doit produire de la joie, évidemment. Mais il nous faut nous laisser enraciner par la parole de Dieu. Et il nous faut nous enraciner aussi dans cette parole pour qu'au jour où il y a détresse, au jour où il y a persécution, nous sachions que c'est dans le cours des choses que Jésus-Christ nous a prévenus et que nous ne soyons pas déroutés. Il y a enfin l'échec de la parole qui est étouffée. Dieu susurre sa parole à nos oreilles, tout doucement. Il murmure. Et il y a le vacarme des inquiétudes. De quoi sera fait demain ? Comment vais-je vivre ? Comment gagner plus ? Le bruit infernal qui emplit nos oreilles. Il y a la tromperie de la richesse. Ah, si j'ai plus, là je suis tranquille. Le lendemain est assuré. Comment faire pour gagner plus ? Toujours plus ! Et il y a aussi le tintamarre des désirs tous azimuts qui résonnent et qui assourdissent tous nos cœurs. Alors cette petite graine, ce petit murmure divin, est étouffé. Alors même que le Seigneur, avec cette petite parole qui dit « Je t'aime, j'ai porté pour toi toute la condamnation », avec cette petite parole qui dit « Je t'aime, toi, personnellement », il y a aussi cette parole qui promet que je prendrai soin de toi, de quoi tu seras vêtu, de quoi tu vas te nourrir et où tu seras où tu habiteras. Il y a ces deux paroles, mais elles sont paroles de murmure, de confiance, de douceur. Va-t-on laisser cette petite graine échouer dans le cœur de nos vies. Heureusement, Jésus n'en reste pas là. Les échecs ne sont pas uniques dans cette parabole. Il parle d'un quatrième sol, de la bonne terre, de cette parole qui accueille, qui ne se laisse pas étouffer, dessécher, mais qui est préparée par le Saint-Esprit pour recevoir cette petite graine qui va se diffuser dans la vie de celle ou de celui qui l'accueille. pour se diffuser et s'épanouir. Elle est cette bonne terre que Nicolas et Justine représentent ce matin, qui, dans la tourmente de leur vie, dans les soucis, dans les épreuves, ont su laisser pousser cette graine, cette petite semence, cette parole divine. Alors Nicolas et Justine, après avoir dit plein de belles choses sur vous, j'ai juste une parole. Parce que vous avez remarqué, cette bonne terre, elle ne fait pas que pousser. Elle produit. Elle produit d'autres graines qui vont semer et permettre à d'autres d'entendre cette parole divine. Parce que vous êtes invités, comme l'a dit grand-papa tout à l'heure, à aller. À aller partager cette bonne nouvelle que vous avez entendue, que vous avez reçue. Pour que des autres, par 30, par 60, par 100, entendent ce message d'un Dieu fait homme venu pour annoncer le pardon. Et nous tous, chers membres de la famille, chers amis, chers membres de cette Église, et nous tous, entendons-nous cette parole de Dieu ? Oh, peut-être nous l'avons déjà entendue, peut-être nous l'avons peut-être laissée étouffer au fur et à mesure des années, par les soucis, les épreuves. Peut-être parce que nous l'avons basée uniquement sur les émotions, nous n'avons pas fait attention qu'un jour les émotions passeront et qu'il est bon de s'enraciner dans la parole de Dieu. Entendons-nous à nouveau cette parole ? Ou alors, si c'est la première fois que vous l'entendez, vous êtes tellement décontenancé par tout le mal qui règne, vous avez la tête tellement remplie d'inquiétude, tellement remplie de soucis pour gagner plus, pour assurer une sécurité matérielle, que vous n'entendez même plus le murmure de Dieu qui s'adresse à vos cœurs ce matin. Cette parole est bonne nouvelle d'un roi qui vous aime, qui vous invite à venir près de lui, avec lui, à vous laisser accueillir, pardonner, restaurer. Allons-nous, chers amis, entendre le message de ce roi, de ce père qui est là, qui nous tend les bras, qui vous tend les bras et qui nous dit le pardon est maintenant possible. Une nouvelle vie est maintenant possible. Quel sol, chers amis, allons-nous être ? Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.